Cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Jodard, le 27 octobre 1987.
Continuons d'entrer dans cette philosophie morale, éthique, et de bien saisir ces trois niveaux. On partait pour l'éthique de l'expérience que nous pouvons avoir de l'amour d'amitié. Et je vous avais dit aussi de ne pas négliger le point de vue du devoir. Préciser les niveaux éthiques, il est bon de voir comment notre responsabilité, qui est comme la propriété de l'acte moral,
c'est ça qu'il faut comprendre. Dès qu'il y a un acte moral, on est responsable.
Responsable, saint Thomas dit dominier, le dominium sui. On a cette responsabilité de poser tel acte ou de ne pas le poser. On a la responsabilité d'orienter sa vie morale de telle manière ou telle autre manière. Alors, il y a cette responsabilité et les niveaux de responsabilité. Je crois que c'est important de bien les saisir. Parce que, de fait, il y a divers niveaux de responsabilité. Il y a la responsabilité première qui consiste justement à comprendre que dans le choix amical, quand on choisit son ami, dans le choix amical, il y a cette responsabilité à l'égard de l'autre. Dès qu'on l'aime et dès qu'on reçoit son amour, puisque dans l'amour d'amitié, il y a cette réciprocité, il y a donc une responsabilité mutuelle. On est responsable l'un par rapport à l'autre. Pour bien saisir ça, il faudrait peut-être saisir comment la responsabilité par rapport à un outil n'est pas du tout la même. Quand vous travaillez et que vous cassez un outil, c'est un outil très perfectionné, c'est très ennuyeux. Êtes-vous responsable de l'outil ? Est-ce qu'il y a une vraie responsabilité à l'égard de l'outil? Vous usez l'outil. Il y a un usage. Si cet outil vous appartient, est-ce que vous êtes responsable de cet outil? Il n'y a pas de réciprocité. L'outil ne va pas dire « tu m'as maltraité, c'est pas bien ». Il n'y a pas de réciprocité. Il y a un certain dominium qui se traduit dans l'usage, mais au sens tout à fait rigoureux. Tout à fait rigoureux, on n'est pas responsable. C'est notre avoir. Si cet outil appartient à quelqu'un d'autre, à cause de ce petit contrat tacite, je te prête cet outil. Je sais que tu en feras attention. Et puis voilà que malgré ça, il s'abîme. On est responsable vis-à-vis de l'autre, de l'outil, qui ne nous appartient pas. Donc c'est à l'égard d'une personne, notre responsabilité. C'est pas à l'égard de l'outil. L'autre, on est responsable à l'égard d'un autre, c'est toujours à l'égard d'une personne. Ce n'est pas à l'égard au sens strict d'un outil. Réfléchissez là-dessus. Je crois que c'est très important parce que vis-à-vis de notre avoir, on en use comme on veut. Évidemment, on peut en abuser. Mais ça, c'est autre chose. On est responsable de notre propre développement humain. Oui, ça, c'est vrai. Nous avons tous un capital humain. Un capital au plan biologique. Un capital au plan spirituel. Un capital de développement humain. On peut développer ce capital de diverses manières. Alors, on est d'une certaine manière responsable vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de Dieu. Pas si commode que ça de répondre. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui vraiment rejette toute amitié, toute dépendance à l'égard de Dieu, il vous dira: je suis maître de moi, je fais de moi ce que je veux. S'il commence à aimer quelqu'un, il commencera à comprendre qu'il y a une dépendance et une responsabilité à l'égard d'un autre, et qu'il ne peut plus faire exactement avec lui tout ce qu'il veut. C'est pour ça que je crois que la responsabilité, c'est comme la manifestation de l'acte moral qui se fonde sur l'amour, mais qui s'épanouit dans la responsabilité. C'est pour ça que je dis la propriété. La propriété, c'est toujours ce qu'on connaît le mieux. C'est ce qui est le plus manifeste. C'est la conséquence, si vous voulez, quand je dis propriété, dites conséquence de quelque chose qui reste caché. Le dominium que vous avez vis-à-vis de vos actes, l'amour que vous avez demeure caché. La responsabilité, vous en avez beaucoup plus conscience. Alors je crois qu'on peut distinguer trois niveaux de responsabilité. La responsabilité à l'égard de l'ami, c'est la responsabilité à l'égard des autres la plus forte. Vous avez une responsabilité de justice quand vous appartenez à un groupe. Vous êtes responsable de ce groupe. Et donc, une responsabilité de justice fondamentale, la responsabilité de l'amitié. Dans l'éthique religieuse, vous avez une responsabilité à l'égard du Dieu créateur. Puisque Dieu vous laisse libre, mais Dieu vous demande de l'adorer et d'être son serviteur. Morale religieuse, on comprend qu'on doit être serviteur de Dieu. Et dans la morale chrétienne, vous êtes l'ami du Christ. Voyez les trois degrés de responsabilité qui, je crois, nous manifestent bien les trois niveaux d'amour. Il n'y a pas de morale sans amour. Alors, le niveau premier de l'amour, c'est l'amour d'amitié. C'est le niveau premier qui assume la justice, qui assume tous les autres degrés d'amour à l'égard des hommes. Mais c'est l'amour d'amitié qui est, par rapport à l'amour humain, le plus parfait. Donc, celui qui assume tous les autres à l'égard de Dieu. Il y a un amour d'adoration qui se traduit dans le service. Et l'amour que nous devons à l'égard de Dieu, cet amour d'adoration a un caractère tout à fait particulier. Et d'une certaine manière, dans l'éthique religieuse, on peut aussi parler de contemplation. Et la contemplation met à l'égard de mon cœur, de un certain amour d'amitié. Cette parole d'Aristote que je trouve très belle. Par la contemplation, nous cultivons en nous ce par quoi nous sommes le plus proche de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu aime que nous fassions cet effort contemplatif. Mais au point de vue éthique religieuse, je n'ai pas de révélation. Donc, je dois m'appuyer sur ce qui me semble être la valeur suprême de l'homme. Et la valeur suprême de l'homme me semble bien être de fait. Ce point de vue de la contemplation, le lien avec Dieu, met toute mon intelligence, tout mon cœur en dépendance vis-à-vis de Dieu. Dans la morale chrétienne, c'est l'amour à l'égard du Christ. Et dans l'amour à l'égard du Christ, l'amour à l'égard de mes frères. J'ai donc là deux amours qui ne font qu'un, puisque le premier précepte, le second précepte, est semblable au premier. Je n'insiste pas plus là-dessus. Si vous aviez des difficultés, essayez de les noter, ce qui n'est pas commode, pour bien comprendre ces trois degrés d'amour. Pour bien comprendre par la responsabilité la manifestation concrète de cette relation que l'amour crée entre deux personnes, qui fait que je deviens responsable de cette personne et qui me fait comprendre comment il y a bien trois matières morales distinctes. L'amour d'amitié, la relation à l'égard du Créateur dans l'adoration et la relation à l'égard de Jésus Sauveur. Ces trois degrés ne forment qu'une seule philosophie. Pourquoi ? Parce que c'est toujours à travers l'homme et la finalité de l'homme que je regarde ces trois degrés d'amour. Et je les regarde en faisant appel à mon intelligence humaine. J'analyse philosophiquement ces trois niveaux d'amour. L'amour d'amitié, l'adoration et ce que nous allons essayer de voir maintenant, le lien, l'alliance avec Jésus. C'est toujours dans la même lumière ce qui finalise l'homme, que je regarde ces trois niveaux. Daniel Robbs le disait bien dans la lecture du réfectoire. C'est ça qui fait le mystique et c'est ça qui fait le chrétien. C'est très vrai. C'est un primat de l'amour. Vous allez me dire, mais dans l'amour d'amitié aussi. Oui, mais c'est très différent. C'est un primat d'amour à l'égard de quelqu'un qui est mon Dieu et qui m'a aimé le premier. Voilà ce que dit le chrétien. Le chrétien dit que sa vie chrétienne repose sur une relation personnelle d'amour avec quelqu'un qui lui a tout donné, puisqu'il est mort sur la croix pour lui. Et je crois que c'est ça qui est la sagesse chrétienne. C'est le mystère de la croix qui est la sagesse chrétienne. Et cette sagesse chrétienne va transformer toute ma vie. Ce n'est plus la prudence, c'est la sagesse qui dirige ma vie, qui oriente ma vie. Donc je dirais la première chose que je souligne, c'est de considérer que ce qui caractérise le chrétien, c'est qu'il mise toute sa vie sur l'amour à l'égard de celui qui est son Dieu et son Sauveur. Et qu'il veut que cet amour soit non seulement à l'égard d'une personne, mais à l'égard de tous les hommes. Ça, vous le trouverez dans aucune religion. Faire que l'amour à l'égard du Dieu Sauveur, du Christ, soit le même qu'à l'égard de tous les hommes. Je crois que c'est unique. Déjà, dans l'Ancien Testament, ça existe, mais d'une manière imparfaite. Le lien entre les deux préceptes sont beaucoup plus nets dans le point de vue chrétien. Et Jésus le dit nettement. Bon, je crois que c'est ça ce qui caractérise la vie chrétienne, l'éthique chrétienne. C'est une éthique d'amour. J'ajoute tout de suite une éthique de surabondance d'amour. Et parce que c'est une éthique de surabondance d'amour, nous allons voir que l'amour à l'égard de Dieu va s'épanouir dans une vie contemplative. Du chrétien. manifeste le plus la vie chrétienne. Aimer jusqu'à ses ennemis. Vous savez que dans une exégèse qui emploie la méthode du structuralisme, on dit, ça m'a été dit, à Jérusalem, par des exégètes que je connais, la seule parole qui est authentiquement du Christ, aimez vos ennemis. Donc, selon cette méthode, la seule chose qui caractérise l'éthique chrétienne de toutes les autres éthiques, c'est l'amour à l'égard des ennemis. Et donc le pardon. Un pardon qui n'a pas de limite. Pardonner non seulement 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Alors faites le calcul. C'est-à-dire pardonner indéfiniment. C'est ça que ça veut dire. Oui, je crois que ça, tout philosophe peut le constater. Ah, il peut dire que les chrétiens vivent très mal, ça c'est autre chose. Le propre de l'éthique chrétienne, c'est d'accepter d'être dépassé par le Christ. Tandis que dans l'éthique stoïcienne, vous avez le droit de dire « je suis un modèle ». Aucun chrétien qui est vraiment chrétien ne dit qu'il est un modèle. Parce qu'il n'a qu'un seul modèle, c'est le Christ. Et il accepte comme second modèle Marie. Mais aucun chrétien un peu lucide, évidemment s'il est un petit peu orgueilleux, en tant qu'il est orgueilleux, il n'est plus chrétien. Donc, il dira qu'il est le modèle. Mais ça, c'est contraire, j'allais dire, à l'éthique chrétienne. Donc, il y a le pardon. Pardonner. Indéfiniment. La miséricorde qui se manifeste surtout dans le pardon. Et une miséricorde qui s'ouvre à tout. On n'exclut personne, puisqu'on doit même aimer ses ennemis. Les seuls qui seraient légitimes d'être exclus, c'est les ennemis. Je crois que c'est la première affirmation, cela, qui va très loin. Si je prends tout ce bloc profond, je pourrais dire aussi ce qui caractérise l'éthique chrétienne, c'est qu'elle est fondée sur la foi. C'est un fait. Le chrétien proclame qu'il est un croyant. Il est un croyant à l'égard de la parole de Dieu. Et que cette foi implique une doctrine. Je peux tenir compte de ça, et je dois même en tenir compte. Si je suis philosophe, je n'ai pas le droit de dire ça ne m'intéresse pas. Pas du tout. Ça change tout. Une éthique qui repose sur l'expérience ou une éthique qui repose sur la foi n'est pas la même. Une éthique qui repose sur l'expérience se développe en fonction de vos expériences. Une éthique qui repose sur la foi se développe en fonction de la parole de Dieu que vous recevez dans votre foi. C'est capital, ça. On en verra un tout petit peu les applications. Parce que c'est très très important de bien noter ce que l'éthique chrétienne, d'un point de vue purement philosophique. Je ne dis pas que je suis d'accord. En tant que philosophe, je constate. Je dis, il existe, de fait, dénominateur chrétien, je retrouverai les mêmes problèmes, les mêmes affirmations. C'est quand même très émouvant, ça. Quand vous voyez des bouddhistes et des bonzes, vous leur demandez quelle est leur éthique religieuse. Ils le disent, du reste. Et si vous dites, moi je suis chrétien, voilà mon éthique, bon, ils vous respectent, parce qu'ils sont religieux. Mais ils disent, je ne comprends pas. Le philosophe ne comprend pas la révélation. Donc le philosophe comme tel ne peut pas comprendre certaines exigences de l'éthique chrétienne, mais il peut les constater. Il peut se mettre à l'école d'un chrétien. Aucune objection à ça. Ça l'intéresse. Et il peut, et c'est ce qu'il devra faire au terme, montrer que c'est l'éthique humaine la plus parfaite. C'est pas de l'apologétique. C'est de la philosophie. Et je crois que c'est très important, ça, aujourd'hui. On doit pouvoir parler philosophiquement de notre éthique. Et pas seulement parler en tant que chrétien, à des chrétiens. C'est une autre attitude, vous voyez. C'est une attitude qui est pour l'homme et par rapport à l'homme. Alors, il y aura cette hausse qui ne sera pas commode du tout à montrer comment l'éthique chrétienne qui se fonde sur la foi peut encore être respectée par le philosophe. Je vous pose toutes les questions ici. Hein. On regarde tout ça. Il n'y a qu'à réfléchir, quoi, en fait. Soyez un tout petit peu philosophe, ou bien si vous avez entendu des amis qui étaient des philosophes et qui n'étaient pas chrétiens. Ils vous ont dit ça. Comme ils vous disent maintenant, mais pourquoi tu prends un habit comme ça? Drôle d'idée. C'est un frère qui était hier en Sorbonne et qui me disait, quand on va en habit en Sorbonne, puisque ça rouvrait hier, c'est pas toujours commun, ça va pas de soi. On vous regarde vraiment comme une bête extraordinaire. Et la seule question qui était posée, ah, vous faites partie de la communauté Saint-Pitis. Hein, c'est très très curieux. Et c'est intéressant. C'est un fait. Aujourd'hui, un catholique qui porte l'habit, communauté de Saint-Pitis. Ça m'avait déjà été dit dans le train. Avec mon ami dominicain, on m'a demandé, vous faites partie de Monseigneur Lefebvre? Je dis non, je ne suis pas partie de Monseigneur Lefebvre, mais je obéis au pape. et la conversation a commencé comme ça. Je dis, mais comment se fait-il? Je dis, mais oui, le Saint-Père demande que dans la mesure du possible, ce n'est pas du tout un ordre impératif. Moi, tu restes jamais plus commode. Puisse porter la Bible. Très bien, d'autres ne le portent pas. Il me dit, mais alors les autres, je dis ça, s'ils ont leur conscience, je ne les juge pas. Je comprends très bien qu'ils peuvent très bien ne pas porter la Bible, c'est autre chose. On doit voir ce regard de vraie charité fraternelle. Alors, je continue. Hein. Il y a l'espérance aussi. L'espérance fait partie de l'éthique chrétienne. Hein. Et ça a été tellement critiqué, ça. Dans l'éthique chrétienne, je sais que ma vie que je vis ici n'est qu'une partie de ma vie. Un tout petit bout de ma vie. Un tout petit bout. Et je sais qu'un jour, je vivrai pleinement dans le ciel. Alors je crois que l'éthique sera remplacée par la mystique. Dans le ciel, ce question fondamentale. Ça change toute l'éthique, ça. Je mise sur l'au-delà. Je suis fait pour le ciel. Je dois vivre sur la terre le mieux possible, comme tous les autres vivent sur la terre. Mais je sais que tout en définitive s'achève dans le ciel. Et comme ça s'achève dans le ciel, c'est quelque chose d'infiniment plus grand. Et ça donne tout de suite à mon éthique une dimension ultime et dernière. Charité, espérance, foi. Alors, voyons la transformation des vertus en fonction du levain chrétien. Comment tout est changé dans ma vie humaine. Quelle est la vertu qui devient la vertu dominante en dehors de la charité? L'obéissance. Une vie chrétienne est une vie qui ne peut pas mettre entre parenthèses l'obéissance. La vie chrétienne est une vie qui met l'obéissance au cœur de sa vie. Surtout si vous avez affaire à ceux qui, dans la vie chrétienne, veulent prendre la voie express. La voie plus rapide des vœux, des conseils évangéliques. Alors l'obéissance devient au cœur. Pourquoi? Parce que l'obéissance est au cœur de la vie du Christ. Et comme l'obéissance est au cœur de la vie du Christ, on comprend très bien qu'elle est au cœur de la vie chrétienne. L'obéissance, la pauvreté, la béatitude des pauvres. Et alors ici, on pourrait reprendre toutes les béatitudes. Les béatitudes sont la charte de la vie chrétienne. Et comme les béatitudes sont la charte de la vie chrétienne, les béatitudes nous font comprendre le rythme très particulier de la vie chrétienne. La vie chrétienne a ce rythme nouveau, unique, qui est les béatitudes évangéliques. Alors, est-ce que ça reste, pour le philosophe, voyez, est-ce que ça reste encore humain? Ou est-ce que c'est tellement surhumain que ce n'est plus humain? La question qui se pose. Hein. Parce qu'il y a des tas de questions qui se posent pour le philosophe quand il regarde le point de vue chrétien. Aristote regarderait la vie commune telle qu'on l'amène à Saint-Jean d'Arc. Aristote regarde